RCF.
L'évangile de la rencontre, Jésus et la Samaritaine, c'est le titre de votre livre, Philippe MacLeod. Il est paru chez Arthège. Vous évoquez longuement la Samaritaine. Nous avons commencé à en parler dans l'évangile de Jean. Et ce qui est intéressant dans Jean, c'est qu'on réalise que, avec lui, que la foi, ça n'est pas une attitude extérieure, on n'est pas dans l'extériorité, mais que c'est tout intérieur. Il y a un développement, il y a une naissance même intérieure à la vie spirituelle. On peut dire que c'est l'évangéliste de l'intériorité, Jean ?
Complètement. Du début à la fin, c'est l'évangile de l'intimité, c'est même l'évangile du mystère du Christ qui vient se révéler dans notre chair humaine pour nous faire aussi comprendre. On le voit tout au long de ce dialogue, comment, en quelque sorte, la source se déplace. La Samaritaine, elle reste attachée, bon, à ce puits. C'est le puits de Jacob, c'est la tradition, et même, elle va dire à Jésus, un peu vertement, mais toi, serais-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits? Et petit à petit, Jésus l'emmène au fond d'elle pour lui faire comprendre que cette source, elle est là, au plus profond d'elle-même. Donc on passe, en quelque sorte, on passe tout doucement de cette eau canalisée, en quelque sorte, du puits, donc de la tradition, au bondissement de l'eau vive qui se déplace et qui devient intérieure. C'est vraiment le parcours de la foi.
Et c'est un parcours que vivront, que sont appelés à vivre d'autres personnages dans l'évangile de Jean. Ça, c'est le cas avec Nicodème, par exemple. Lui aussi est appelé à bien entendre qu'il vient de la tradition, mais que la source est en lui et qu'il peut renaître de cette source-là.
Voilà, il a du mal, là. Donc, dans ce premier entretien nocturne, donc Nicodème a du mal. Mais la rencontre se fera plus tard. Ça, elle va cheminer en lui. Et c'est vrai que là aussi, ça le bouscule trop. Ce soir-là, il ne peut pas encore comprendre, parce que c'est vrai, il faut quand même mesurer le chemin extraordinaire qu'il y a à faire de cette tradition, de cette religion très extérieure, à l'adhésion intérieure de tout mon être à quelqu'un. En plus, c'est Jésus, c'est quelqu'un.
Donc, dans la rencontre avec la Samaritaine, on peut dire que le puits symbolise la religion avec ses sédimentations, la loi, les cadres qui sont importants, et puis la source, ce serait la foi. Foi dans la vérité, avec la force de la rencontre. Il y a deux niveaux là. Et Jean, souvent, parlera de ces deux niveaux.
Bien sûr, il y a deux niveaux. Alors qu'on aurait un peu tendance, surtout aujourd'hui, à opposer pour trancher. Il y a beaucoup de gens maintenant qui disent bon, voilà, on rejette la religion. Moi, je crois, mais je rejette la religion. Et c'est vrai qu'en rejetant un peu son jeu de mots avec l'enfant de la crèche, on risque de rejeter le bébé avec l'eau du bain.
C'est-à-dire, si on jette la religion, vous
voilà, parce que la religion, il faut la distinguer de la foi, mais elle est nécessaire à la cohésion. Elle est nécessaire à la communauté, au corps. Mais il y a une dimension plus intérieure, qui est celle de la foi. Donc si cette religion reste seulement un système de valeurs, une croyance, une adhésion, c'est une idéologie.
Mais comme un parti politique.
Comme un parti, c'est-à-dire c'est plus un corps, c'est du corporatisme. Mais le Christ ne veut pas de corporatisme. Il veut un corps vivant, c'est-à-dire dont les membres sont reliés à la tête comme au cœur. On doit avoir un lien intime avec la tête du corps et son cœur. Donc il y a cette tension entre l'expression communautaire, le religieux, et puis cette relation personnelle, intime, que j'ai avec le Christ. Mais il n'est pas question de trancher, donc on peut dire que la source est intérieure au puits. C'est un degré plus profond.
Et c'est-à-dire que la source doit être intérieure à la loi, à la religion, mais qu'on ne peut pas séparer les deux. C'est illusoire de dire effectivement moi je vais direct à la source, j'ai pas besoin des institutions, j'ai pas besoin de l'église.
Je pense que c'est illusoire parce que c'est aussi se séparer de la patte humaine. Il y a une solidarité et Jésus insiste.
Vous voulez dire la complexité de la patte humaine?
Voilà, il y a une solidarité et je ne peux pas, même si, bon, par exemple, dans notre église, on peut avoir peut-être tous les jours des occasions de claquer la porte. Mais voilà, on reste solidaire aussi de sa pauvreté, solidaire les uns des autres. On avance ensemble. Alors je pense que si on peut prendre aussi une autre image, la religion, c'est un cadre, ok? Mais la foi, c'est ce qui déborde, c'est ce qui bondit. Vous voyez, c'est ce côté vivant. Donc, en quelque sorte, c'est un perpétuel déséquilibre, un peu comme la marche. La marche est un perpétuel déséquilibre. On se reprend sur un pied, etc. Et je pense que c'est comme ça que nous avançons, chacun et ensemble, en tenant les deux bouts.
Philippe MacLeod, toujours dans l'Évangile de Jean, l'épisode de la femme adultère est instructif par rapport à ce que nous disions. Cette femme trouvée en flagrant délit d'adultère devait être lapidée selon la loi et Jésus amène ceux qui sont là à aller plus loin, à dépasser cette loi. Qu'est-ce qui se joue là dans l'articulation foi-religion dans cet épisode-là?
C'est un très très bel exemple parce que justement, ce sont les accusateurs qui sont un peu les représentants de la loi, de la religion, qui ne peuvent pas faire la rencontre. Le fossé, en réalité, il n'est pas entre la femme adultère et le Christ, il est entre les accusateurs et le Christ, qui d'ailleurs reste accroupi la poussière et il trace ses signes un peu sibyllins. Mais moi, je pense que ce sont justement les petits signes de la loi qui tracent dans la poussière pour leur faire comprendre qu'il y a quelque chose à dépasser. Et la femme adultère va réaliser ce pas simplement dans la rencontre avec ce Christ où il y a très peu de paroles. Là, au contraire de la Samaritaine, il n'y a pratiquement pas de paroles échangées entre la femme adultère et le Christ. Tout se passe dans un regard, hein, quand tout le monde se détourne et part, le Christ se relève et il la regarde, il n'y a plus personne. Et la rencontre est magnifique parce qu'elle se joue dans ce regard, dans cet échange.
Et les attitudes aussi, parce qu'on a un Christ, Jésus, qui est accroupi pratiquement, en train de dessiner, la femme doit être debout.
Voilà, quand tous sont partis, il relève la tête vers elle pour lui montrer aussi que elle aussi
peut relever la tête.
Elle peut relever la tête, se redresser et puis voilà, après va. Moi je ne te condamne pas, va, je ne pêche plus, mais il lui dit pas bah c'est fichu pour toi. Oui, c'est alors que les accusateurs pour elle c'était terminé.
Alors, cette problématique foi-religion, on la retrouve aussi dans la Samaritaine, quand Jésus dit à la femme, mais bientôt, ça n'est ni en Samarie, ni à Jérusalem qu'on adore. C'est en esprit et en vérité. Donc là, on retrouve la question de l'intériorisation. La religion, c'est pas voilà, quelque chose d'extérieur, ça doit nous emmener à la source.
Voilà, et d'ailleurs, c'est une... On s'y arrête très peu, quand même, cette déclaration que Jésus fait, là, Dieu est esprit, extraordinaire. Il ne l'a jamais dit à ses disciples, c'est à une femme qu'il la confie, qu'il la révèle, et en plus une
hérétique,
femme
hérétique normalement, en Samarie.
De Samarie. Et donc, le corollaire, c'est, puisque Dieu est esprit, il veut des adorateurs en esprit et en vérité. Donc ça veut dire, en esprit, en vérité, ça veut dire dans cette profondeur de l'intimité. L'esprit, sur l'élève de Jésus, c'est pas comme on peut l'entendre aujourd'hui, l'intelligence, le mental, l'esprit, c'est la globalité de l'homme, c'est le cœur profond, parce que les mystiques ont appelé le cœur profond, l'âme, voilà, c'est tout ce qui nous anime en profondeur et qui fait de nous une personne humaine. Donc c'est là que Dieu nous attend, en tout cas veut nous rejoindre et veut s'incarner à nouveau.
On pourrait dire que Jésus désacralise la terre, désacralise les lieux de culte, dans le sens où le vrai lieu de l'adoration, ça devient le temple intérieur, le corps de l'homme.
Voilà ce qui sera clairement exprimé par saint Paul. Hein. Voilà, vous êtes le temple de l'Esprit Saint. Je veux dire, donc c'est pas une désacralisation, c'est un déplacement.
Oui, mais voilà. Vous dites dans le livre qu'il faut bien discerner entre sacré et sainteté.
Voilà, c'est que
parce qu'on a beaucoup sacralisé quand même.
Voilà, on a beaucoup sacralisé. Puis aujourd'hui, moi, j'entends beaucoup parler de. On parle beaucoup de sacré. Et c'est vrai que dans l'Évangile, le sacré n'est pas vraiment, même dans l'Ancien Testament, c'est pas le terme majeur. C'est plutôt la sainteté. L'Évangile nous appelle à la sainteté. Donc c'est d'abord plus même à la sanctification qu'à la sainteté, parce que c'est jamais un terme, c'est un chemin. Sacraliser des objets, sacraliser des lieux, je dirais, c'est facile. C'est facile, les païens l'ont fait. Donc le Christ ne nous demande pas, au contraire, il nous demande de dépasser cette première étape qu'exprimait le paganisme pour justement vivre, et c'est le sens de l'incarnation, c'est vivre Dieu dans notre chair. Donc c'est la vie humaine qui est sacrée, c'est notre corps, c'est chacun de nos gestes, c'est chacun de nos regards, parce qu'on porte le Christ et on le transmet par ce que nous sommes, pas par des objets.
Nous poursuivrons demain. Merci à vous, Philippe MacLeod.